nous allons démarrer cette conférence. Je vois encore quelques personnes qui arrivent dans la salle. Tout d'abord, vous remercier de votre présence pour cette conférence qui est dédiée aux arts numériques. Tout ça pour préciser que nous sommes actuellement toujours dans ce contexte de la fête de la science et que nous sommes assez contents cette année d'avoir pu inclure ce samedi, inclure cette problématique de l'art numérique. Nous allons aborder donc cette problématique de l'art numérique, mais on va essayer de le faire d'une façon un peu moins didactique, c'est-à-dire essayer d'éviter, comme on entend souvent dans les réunions autour des arts numériques, les arts technologiques ou les arts médiatiques, on va éviter l'étape de la définition. Je vois certains d'entre vous qui peut-être auraient besoin de cette définition. On va essayer de faire abstraction ce soir pour aller directement sur une problématique sous-jacente qui nous paraît extrêmement importante, qui est le besoin de définir l'art numérique, le numérique, la création numérique. Il y a multiples approches. Au Québec, par exemple, on parle d'art médiatique. On va essayer plutôt d'aborder sur une approche un peu philosophique et une approche en tout cas qui sera affirmée de façon forte d'un point de vue politique par certains de nos intervenants pour essayer de donner du sens à tout ça en termes de création. Comme vous le savez, en ce moment, il y a un mouvement très fort au niveau mondial qui est parti de France, d'un vieux monsieur qui s'appelle Stéphane Hessel, qui est la révolution des indignés. Et on pensait intéressant de mettre un axe sur la création numérique. C'est un parti pris de ce soir, établi en tout cas en relation avec les intervenants et sur lequel on ne peut qu'aller dans ce sens de réflexion pour proposer un petit peu le sens de l'outil dans une société complexe. Je crois que c'est un mot qu'on avait envie d'aborder. Un petit peu sous, je parlais de Stéphane Hessel, un autre vieux monsieur actuellement en France qui intervient médiatiquement, peut-être un peu tardivement, et en tout cas qui a une littérature que je vous conseille chaudement, qui s'appelle Monsieur Edgar Morin, sur le principe de complexité, simplement pour revenir sur la définition même de complexité, qui est issue du mot complexus, et qui revient sur la notion de tapisserie, et qui veut dire finalement complexus, c'est ce qui est tissé ensemble. Essayer de définir un lien. Alors ça, c'était une première approche qui nous paraissait intéressante, parce que finalement, ce qu'on fait ce soir à l'ère du numérique, on n'est pas en visioconférence, c'est un procédé qu'on utilise de plus en plus, qui se développe. Là, ça va être sur un plateau pour présenter un choix certainement subjectif, mais néanmoins affirmé, de trois démarches artistiques qui, je pense, personnellement, ça n'engage que moi, vont même au-delà de la démarche artistique et qui travaillent finalement sur ce principe de complexus, du tisser ensemble, de relier ensemble et qui permettent finalement de retrouver des objectifs concomitants qui utilisent les technologies, certes, mais qui finalement travaille, il me semble, et peut-être qu'on aura cette confirmation lors des trois présentations, sur la nature humaine, sur la connaissance des éléments, et puis aussi un principe immensément important dans cette complexité, c'est de connaître la relation entre les actions, entre les individus, et donc plus que d'art numérique, on va peut-être parler de principe de mise en relation, et d'usage en termes artistiques, en termes philosophiques, en termes politiques. Donc, pour faire ce petit voyage ensemble, je vais commencer par Sylvie Marchand, que certains d'entre vous doivent connaître ici, j'imagine, qui enseigne donc à l'École européenne supérieure de l'image, hein, qui est une voisine de l'espace Mendès France, qui est un établissement d'enseignement, où la question de l'art numérique et de la question des technologies est évidemment abordée. Je ne vais pas revenir là-dessus parce que je pense que vous en connaissez certainement plus que moi sur l'ESI à ce sujet. Et qui est également, ça c'est le deuxième volet, qui est directrice artistique du projet Giga Circus. Donc là, ça va être plus le sujet puisqu'elle va nous parler de sujets que nous on connaît ici puisqu'on les a accueillis, qui concernent la notion de frontière, la notion de relation entre des peuples et un travail en tout cas qu'on a eu l'occasion, je crois que c'est une des premières diffusions qui a eu lieu, la première diffusion d'un Mexica Skin, qui est un projet qui pour nous représente une utilisation et un usage autour des outils multimédia, mais avec un sens profond de la relation humaine. Donc je vous avais dit que le mot relation était important, et je pense qu'il sera certainement redondant ce soir. Après, on passera la parole à Horacio González Diegues, qui est donc un membre du collectif d'artistes Escoitar. Alors Escoitar, ça veut dire écoute, écouter. Ça nous ramène aussi à des...
En galicien,
oui. Je le précise parce que je pense que pour Pedro c'est important, et qui cette notion d'écoute nous ramène à des artistes, enfin je pense que qui nous ont certainement beaucoup apporté. Je pense particulièrement à John Cage par exemple. Donc ce mot d'écoute, ce principe d'écoute. Et donc Horacio va nous parler d'un projet de mise en place et de mise en relation sur des procédés technologiques, mais surtout sur des procédés de mise en relation de groupes d'individus. Et enfin, nous finirons cette présentation, et évidemment, nous aurons un débat, ça va être extrêmement important, avec Pedro Soler, que nous avons le plaisir d'accueillir, que nous avons déjà eu ici il y a quelques années, autour de questions portant sur la mise en scène de théâtre et nouvelles technologies, avec monsieur Georges Gagneret, un metteur en scène qui a été certainement un des précurseurs en France de ces questions de mise en place de théâtre et nouvelles technologies. Mais ce soir, Pedro nous vient en tant que responsable de Plataforma Cero, qui est un centre de production et d'investigation et ressources à Laboral. Laboral est un centre un peu particulier qui travaille autour du design, de l'industrie et des nouvelles technologies. Donc une démarche un peu particulière située à Gijón. Et Pedro nous parlera de façon véhémente et affirmée du rôle des nouvelles technologies, du numérique, donc aussi de la création numérique, sur ce que j'évoquais tout à l'heure, sur une révolution qui est actuellement en cours, celle des indignés, et comment les outils numériques interconnectent et mettent en relation les individus pour une démarche de révolution. Voilà, un mot qui peut faire peur, mais qui, dans lequel on est actuellement directement ou indirectement impliqué. Et je pense que avec ces trois présentations, on aura fait un tour qui vous permettra après de poser les questions et peut-être de revisiter, de redécouvrir ou d'investiguer en tout cas le sens du mot relation. J'arrête ici, je vais tout de suite passer la parole à Sylvie pour nous parler de ce superbe projet qui est à Mexica Skin.
Merci infiniment de l'invitation de lieux multiples que nous connaissons bien, en effet, puisque nous avons présenté ici il y a un an et quelques mois, donc pour la première fois, Mexica Skin. Et merci à l'École de l'Image qui est partenaire de ce projet. Merci aux étudiants qui nous ont, avec lesquels nous avons vécu pendant quelques jours, pendant 3 jours avec Horacio, donc un workshop tout à fait passionnant. Et donc merci à nos amis de venir nous retrouver autour de ces problématiques. Je vous montre ici, je commence par quelques images de... J'ai pas de son, c'est pas très grave. Donc je voulais insister pour commencer sur comment ça se fait l'art numérique, en tout cas pour nous, Giga Circus. Donc on est un collectif une vingtaine, même un peu plus, d'artistes ont collaboré avec Giga Circus depuis une douzaine d'années. Et pour moi, en tout cas, en tant qu'initiatrice des projets, ce qui compte, c'est en effet la densité humaine, la rencontre, l'échange. Et en effet, le mot relié est important pour moi. Là, on nous voit, donc, par exemple, dans le désert d'Arizona, en train de tourner. Donc tout commence par un travail de terrain et d'immersion à la fois dans la nature et dans le milieu humain. Vous voyez donc des objets au sol et vous voyez aussi des technologies à bord. Enfin, vous ne les voyez pas, mais vous voyez un hélicoptère. Donc les migrants dans cette partie-là de la traversée qui est très longue sont scrutés traqués par des caméras, des capteurs et donc des technologies que nous utilisons ensuite nous, dans l'installation, enfin dans notre travail d'artiste depuis longtemps, mais en les retournant pour une utilisation humaine, artistique, créative. Et Nam June Paik disait à l'arrivée de la télévision, TV is attacking us, we have to fight it back. Et nous continuons donc avec les moyens d'aujourd'hui. Donc il n'y a rien en effet de forcément nouveau dans les technologies. Il y a toujours des technologies qui arrivent. Et une partie de notre rôle, me semble-t-il, est d'en faire quelque chose vers le dialogue, vers la connaissance d'autrui, etc. Donc. Je vais aller très rapidement, mais avant ce travail, on n'est pas arrivé en effet dans le désert d'Arizona comme ça. On avait initié un travail, Lionel est ici présent, donc il fait de la création sonore, il est scénographe dans le collectif. Donc nous avons travaillé sur les chemins de Compostelle, réalisé une installation interactive en hypermédia très complexe. Ensuite, nous avons travaillé en Mongolie dans un milieu extrêmement froid. Ici, en Arizona, on est très au chaud, au contraire. Moi, ces questions de climat humain et naturel m'activent ma création énormément. Et donc, c'est après plusieurs projets, dont la liste est un peu longue, que nous avons été invités donc, pour prêter notre regard à la frontière. Ce que je veux dire par là, c'est qu'au bout d'un moment, on prend en tant qu'artiste un chemin, et ce chemin donc, est habité, je dirais, d'autres humains qui nous prennent et qui nous accompagnent. Et à un moment donné, c'est la démarche aussi artistique qui, comme un flux, vous amène à rencontrer d'autres artistes, d'autres êtres humains qui pensent comme vous. Et le tout forme une force énergique de pensée et, dans ce cas, de dénonciation, par exemple, pour ce qui est de l'installation, du sort qui est fait aux migrants. Je vais juste changer d'image et vous présenter très rapidement une vision pour ceux qui ne le connaîtraient pas, du dispositif donc qui était montré ici.
C'est trop facile.
Hop, et là j'arrête le son. Ensuite, lorsqu'on vit une expérience, comment la traduire? C'est une expérience comme celle de la migration, par exemple, qui est en effet dure. Donc d'un côté, l'objectif était de faire savoir et donc de donner la parole aux migrants eux-mêmes. C'est pourquoi au sud, dans cette grande boucle d'installation, je vais aller très vite, hein, on entendra de l'espagnol, et au nord de l'installation qui représente peut-être plutôt les États-Unis, sachant que les migrants viennent de l'Amérique du Sud vers les États-Unis. Donc au nord, on verra un espace refermé sur lui-même à travers lequel on pourra voir les États-Unis, mais dans lequel on ne pourra pas pénétrer. Donc ce qui compte dans un... Je ne suis pas là pour raconter l'installation, mais le travail consiste à traduire, à chercher une structure de sens. Là, on a en effet, au point de vue technique, 8 ou 10 ordinateurs en réseau Wi-Fi. On a des capteurs dans un moment donné, une traversée. Donc, on passe, le public passe dans l'image. Et donc, le passage des gens dans l'image déclenche des sons, des lumières. Donc, on a une technologie à ce moment-là. Pourquoi choisir donc le multimédia? Parce que ça permet... Pour moi, au public, ça me permet de faire vivre une expérience au public et d'être en marche, de quitter la position assise et surtout quitter le mode de représentation du cadre statique et fixe et pour amener le public donc à expérimenter à la fois du son et de l'image. Hein. Donc, il n'y a vraiment pas qu'une expérience visuelle dans ce cas. Donc, je voulais, donc comme beaucoup d'entre vous connaissent ce travail, je ne vais pas en parler davantage, il y a quand même un engagement fort hein, de notre part de vouloir en effet donner la parole aux migrants. Et dans un autre, d'un autre côté, il faut dire aussi que l'installation était un lieu de dialogue ouvert à des performeurs mexicains qui venaient donc en VJ ou en création sonore apporter leur voix à ce dialogue, à cette réflexion sur la migration qui est un problème ou une question absolument tout à fait mondiale et actuelle. Donc il me semblait important à la fois que les migrants aient la parole et qu'on puisse établir un dialogue dans l'espace même de l'installation. Donc la banque de données est ouverte et on peut changer les données. Donc on n'est pas dans une œuvre, si vous voulez, figée, fixe, dont la forme est finie forever, mais dans une sorte de monde d'ambiant vivant, transformable, dans lequel le dialogue peut s'établir. Je reviens ensuite sur une œuvre historique qui a 12 ans, qui s'appelle Passeur, et qui était une commande de la ville de Parthenay, qui nous demandait donc une œuvre pour l'ouverture de la salle multimédia. Et là, nous avons décidé de créer une relation entre une performance qui a lieu dans l'espace, dans ce qu'est l'espace en vert, là, ici, vous voyez, un site internet et un espace de représentation qui est la salle multimédia, donc une salle style muséal de représentation. Donc ici nous voyons ce qui m'intéressait, donc c'était d'établir un lien physique et non visuel entre un marcheur dans la nature. Donc on est dans un site naturel. On a un performeur et une partie du public pouvait suivre le performeur. Et on avait, en temps réel, hein, donc dans un présent donné, sur un site donné, à un moment donné, et on avait donc dans ce dispositif-ci des images et des sons qui avaient été enregistrés avant l'événement, donc qui précédait, et qui représentaient les espaces banlieues de la ville de Parthenay. Et en temps réel, donc, je suivais le performeur. Et l'événement était reporté sur Internet. Donc on a un troisième type, si je puis dire, de spectateurs qui, de façon internationale, dans le monde entier, pouvaient aussi suivre la performance. Ce qui me semble le plus important dans cette expérience-là, c'était de pouvoir, donc grâce à des capteurs qui étaient au pied, dans les chaussures du performeur, à chaque fois que son pied donc touche le sol, cela produit un son, et ce son par téléphone déclenche des séquences dans l'espace de démonstration ici présent, dans lequel on a aussi une représentation virtuelle du performeur. Donc ces trois états-là, être dans la nature, en marche, dans la réalité, être sur l'Internet en dialogue, en partage d'écran, et être en espace de représentation, ces états, nous les vivons au quotidien. C'est notre façon d'être aujourd'hui. Et actuellement, donc, nous reprenons cette idée à partir de une expérience qui s'appelle « Danzar o morir », qui est la découverte, grâce à un performeur mexicain, donc découvert lors du travail au Mexique, lors du long tournage de 8 mois d'A Mexica Skin. Donc ce performeur m'a permis d'accéder à un rituel Rarámuri, donc les Indiens Rarámuri qui vivent dans la Sierra Tarahumara. Vous vous souvenez sans doute de l'ouvrage d'Antonin Artaud, Les Tarahumara, et de sa quête du chamanisme qui a été une des racines profondes de son œuvre. Donc, non pas par hasard, mais par ce lien justement de sens et d'énergie et cette quête artistique par l'intermédiaire d'un artiste mexicain, je me retrouve en pleine fête Rarámuri. Et j'ai découvert en effet combien ces rituels étaient forts. Donc là, on va peut-être avancer un peu. Et ce qui m'intéresse maintenant, donc, vous avez une petite vision de la Sierra Terra Humara. Donc ça, ce sont les premières étapes du travail. C'est déjà vivre la chose, filmer donc 5 jours, 4 nuits en courant et avec les danseurs et comprendre le rituel, comprendre cette culture Tara Humara qui est très complexe. Leur devise, c'est danser ou mourir. Donc danser pour vivre finalement dans une culture de la danse comme un acte de résistance. Et là, on est encore dans un contexte politique. Ils maintiennent leur culture menacée, on peut le dire, mais toujours très forte. Et les raramuris sont en nombre croissant. Certains émigrent dans les villes de Chihuahua ou Ciudad Juárez, où nous avons présenté donc une partie du projet en pleine ville, mais aussi dans les assentamientos, dans les bidonvilles. Donc c'est de la part des raramuris, danser c'est un acte de résistance et pour garder leur culture. Donc, nous sommes sur ce terrain, Lionel et moi, et les artistes de Giga Circus actuellement. Et donc, je désire, et c'est pourquoi, par un ami qui a de Giga Circus, Fred Adam, donc, qui travaille dans un collectif au sud de l'Espagne. Donc, j'ai entendu parler du travail d'Escoitar, puisque mon désir était de relier, c'est encore un maître mot, encore une fois, à la fois le groupe de performeurs qui s'appelle Performancear o Morir, qui regroupe un grand nombre d'artistes de plus en plus grands grâce à l'Internet, grâce à Facebook, etc., de façon internationale. Donc de relier ce groupe de performeurs aux raramuris eux-mêmes, autour de ces rituels de survie, de danse, de transe, qui ont lieu très souvent dans l'année. Là, par exemple, c'est un exemple précis sur ce qui se passe autour de Pâques, mais tout au long de l'année, donc on a le fameux Siguri ou Tutoguri dont vous avez entendu parler chez Arto, puisque Arto a séjourné ici même et il a peut-être vu et vécu ces rituels-là. Donc pour moi, il y a un lien de sens qui n'est pas anodin. J'ai appris après que c'était le village où avait vécu Arto. Donc je ne désire pas faire un travail sur Arto, mais je considère qu'Arto est toujours un auteur révolutionnaire qui a écrit beaucoup sur le théâtre et le cinéma aussi, vous le savez sans doute, appelant donc des formes beaucoup plus expérimentales et beaucoup plus, je dirais, corporelles, hein, c'est le mot, d'un théâtre ou d'un cinéma qui mette le public en route, qui mette le public en transe peut-être. Et voilà, donc pour relier les Tara Humara, le peuple Tara Humara et notre public et les performeurs mexicains contemporains, je pensais donc reprendre travailler avec l'application de nos tours, donc proposée par Escoitar. Donc nous sommes en train de réfléchir à ce travail. Donc ça va ? C'est pas trop long ?
Non, je voulais juste te poser une question parce que comme on est sur l'art numérique, revenir un petit peu sur
Amexicaskin,
voir un petit peu le principe d'utilisation de la sphère numérique. Moi, j'ai envie de revenir déjà sur pourquoi ce choix, parce que pourquoi la peau et le choix de ce dispositif. C'est-à-dire, moi, je pense qu'on est aussi sur une approche sur ce dispositif, sur cette installation, une approche d'immersion.
Tout à fait.
Et en quoi la peau. Et revenir un petit peu, parce que je pense que c'est intéressant, parce que là, on pourrait presque croire qu'on est dans une conférence sur l'ethnologie.
Sur les raramuris, oui.
Revenir un peu sur comment la relation humaine s'est aussi établie, comment s'est construite cette histoire, parce que tu as dit que vous avez passé 8 mois sur une frontière qui est quand même pas de tout repos. Et finalement, vous auriez pu faire presque un documentaire dans le sens traditionnel. Et le choix de cette installation, le choix d'un dispositif numérique.
Bah en fait, ce que le numérique nous permet, c'est de construire un parcours de compréhension. Non plus linéaire pour un public debout mobile, mais aussi des données ou une expérience qui se lie dans le temps et selon des temporalités choisies par le spectateur. C'est-à-dire qu'on peut, dès l'entrée dans le dispositif, s'arrêter une heure et demie et écouter des films qui sont dans une banque de données, d'ailleurs renouvelables au fur et à mesure du temps, continuer et s'arrêter une autre heure et demie à l'autre bout de l'installation, revenir, revoir des films différents. Donc c'est vraiment, on quitte la linéarité et on vit dans le temps un parcours. Cette notion de parcours me semblait importante. Et skin, parce que donc il y a une série de capteurs qui sont disposés dans le dispositif, qui réagit à la présence du public, comme je l'ai déjà dit, mais surtout skin parce que c'est aussi la réalité de la frontière. Une frontière n'est pas figée, n'est pas fixe, elle vit et en même temps elle est poreuse. La frontière sont des flux aussi, comme les flux vidéo qui mettent en relation, par exemple dans cet exemple précis, le nord et le sud. Donc je voulais vraiment pas construire un mur qui reprendrait la structure de l'opposition entre deux mondes, mais vraiment construire et ce flux et ces relations entre les deux pôles, le public peut la vivre grâce aux capteurs, grâce à la déambulation, grâce au parcours, grâce à l'immersion. Et ça, il n'y a vraiment que, en effet, les dispositifs numériques qui peuvent le faire. De la même façon, quand on a travaillé sur... une autre œuvre en Mongolie, on a mis en présence quatre pôles et on a traduit la représentation du monde des Mongols et on pouvait voir en même temps ce que voyaient, ce que vivaient. Enfin, c'est une interprétation qu'on a faite après de longs mois de recherche et d'expérience là-bas, mais on pouvait mettre en relation quatre réalités polaires, les hommes, les femmes, les ancêtres, etc., en même temps. Donc, au point de vue anthropologique, je pense que ça permettrait, si l'anthropologie ne se privait pas de ses moyens, enfin, je crois qu'elle y vient aux États-Unis de plus en plus, en tout cas, de parler de l'autre autrement, et de, à la fois de donner des espaces de compréhension, mais aussi d'analyse, autant d'analyse que de compréhension et d'émotion. Ça me semble plus proche de la vie, finalement, le numérique, le multimédia. On peut accéder... non que je n'aime pas le cinéma, mais il me semble qu'aujourd'hui, on vit dans les images et les sons. On est totalement impliqué tout le temps, et voire assailli. Et là, d'en faire du sens, ça... Voilà. Ça te va comme
oui, enfin, après on passera la parole au public parce que je pense qu'il y aura certainement des questions sur ces notions d'expérience perceptive. En 3 minutes, puisque je vais distribuer un peu les temps de parole, j'aimerais bien, parce qu'il y a une expérience quand même de Giga Circus que moi j'ai particulièrement aimé parce qu'elle est plus proche, c'est l'expérience que vous avez fait sur les chemins de Saint-Jacques de Compostelle, oui. Qui était une belle expérience où il y a tout de même cette notion de numérique, enfin en tout cas de géolocalisation à l'époque. J'aimerais bien, alors c'est toujours un exercice difficile, mais peut-être que tu parles en 3 minutes de ce qu'était cette expérience et surtout le sens de cette expérience qui lie un cheminement, une démarche peut-être du passé et une réinterprétation franchement numérique, enfin, me semble-t-il.
Oui, tout à fait. Ce qui me semblait intéressant, c'est que finalement, d'abord, quand je suis arrivée... Hein ? Oui. Quand je suis arrivée en Poitou-Charentes, donc il y a une douzaine d'années, en 1998, c'était au siècle passé, je me suis aperçue qu'il y avait beaucoup de gens qui allaient à Compostelle. Et donc je me suis demandé pourquoi des gens venaient vraiment du Nord et partaient pour 2 mois, voire plus, avec juste un sac à dos. Donc c'est vraiment déjà une approche très différente de celle de la consommation où on s'entoure d'une vie très lourde à porter. Donc pourquoi ? Et puis ensuite, donc je me suis dit, allons-y. Donc fidèle à notre démarche, Lionel et moi sommes partis avec ce qu'on a de plus cher, c'est-à-dire pour ce qui me concerne ma caméra et toi ton appareil de son et ton appareil photo. Et donc c'est en fait une expérience cinématographique parce qu'on marche. Donc on est parti pour faire un projet multimédia. On n'était pas parti à Compostelle comme des randonneurs, mais par contre c'est vraiment une expérience cinématographique, c'est-à-dire que on porte la caméra en marchant et ou alors parfois on s'arrête et on peut scruter l'espace et l'observer en profondeur. Donc la notion de temps et de vision d'audiovisuel liée et d'expérience sur le chemin sont très 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 liées. Et on a travaillé donc sur ces temps ensuite au montage. D'abord on a interviewé les randonneurs, enfin les marcheurs, pourquoi est-ce qu'ils font ce périple, mais ce qui m'intéressait par-dessus tout c'était de traduire justement cette déambulation longue, donc ça prend un mois et demi, c'est 1000 kilomètres. De la traduire sous un espace, il aurait fallu que je prévoie, j'avais pas prévu d'en parler de ça. Donc on l'a présenté sous un ancien une tente, un parachute en fait. Et donc à 380 degrés et on avait à la fois une borne tactile et les spectateurs étaient assis et pouvaient pianoter, mais on pouvait aussi marcher, donc il y avait trois positions différentes, ce qui est différent au cinéma où ici vous n'avez qu'un choix, vous asseyez là et vous nous regardez. Donc soit vous marchiez autour, soit vous étiez actif grâce à l'écran tactile, soit vous pouviez aussi rêver et regarder ce qui se passait, mais on avait le choix. On a repris donc des grandes, si vous voulez, on a essayé de plier ou de faire ployer l'écriture multimédia à la force de la réalité du marcheur, du promeneur dans l'espace. Cette notion de promenade, elle est très importante, hein, de parcours, d'expérimentation dans le temps et dans l'espace. Donc traduire ce qui se passe quand on arrive quelque part, mais avec des moyens abstraits, poétiques. Donc on a repris des éléments du chemin pour construire l'interface et surtout traduire cette notion de temps dans la vie quand on va très très vite et qu'on traverse une ville à toute vitesse, on ne voit rien. Donc dans le programme c'était la même chose, mais on pouvait arrêter les films par exemple et aller au fond d'une image. Donc plus le doigt était posé sur l'image, c'était tactile, plus on pouvait accéder à des détails. Donc si vous voulez, on a véritablement construit le projet pour qu'il réagisse aux gestes et à la temporalité humaine. Et donc, à contrario de la publicité ou de la vie qui nous fait courir, là, on pouvait soit changer de scénario intuitivement, passer vers une séquence de nature ou alors une séquence de culture. Si vous voulez, le spectateur avait un grand, grand choix et pouvait moduler son rythme, travailler le rythme du spectateur. Ça me semble c'est une piste intéressante sur laquelle donc on va continuer à travailler avec les Raramuri, donc envoyer un beat et par et un rythme par internet ou par téléphone et faire réagir, moduler le rythme de façon physiologique et non plus seulement visuel. Donc ça élargit au toucher, au corps vraiment. Et c'est là où je retrouve un petit peu, où je me retrouve bien dans les lectures que je refais donc d'Artaud sur le théâtre ou le cinéma qui nous situe le... Voilà, donc le numérique nous permet de faire toutes ces expériences non dénuées de... Tu parlais de politique pour introduire, donc il se trouve que souvent, en effet, ça ce sont des questions d'engagement profond sur le terrain humain. Et à chaque fois, donc, nous, on est vraiment devant les machines. Et nous avons une responsabilité face à ces machines. Je parlais tout à l'heure des caméras de surveillance, etc. Donc on est environné de tout ça. Et vraiment, on peut en faire autre chose pourtant.
Ça va ? Oui, c'est une bonne. Ça va me permettre de faire le lien très rapidement avec Horacio, donc qui va faire une intervention en anglais, qui sera traduite par Sylvie. Je pourrais aider. Donc présenter ce projet qu'a évoqué Sylvie déjà. Donc on va faire une petite translation de câble. C'est bon, parfait. Yeah, it's for the sound, it's okay.
Ha conectado con el satélite. Puede comenzar el paseo sonoro.
You have connected to the satellite. You can start the sound walk.
Okay, so first, sorry, I don't speak French, so I have to speak in English. My main connection with Hilby, it's in relation to this project. That the collective I work with has been working for probably last 2 years. It's called No Tours, and it's inspired in the traditional audio guides, but it's trying to break the way they normally work and try to create a new language with a similar tool.
Voilà, donc peut-être que certains d'entre vous préfèrent que je traduise, à moins que tout le monde parle anglais. C'est peut-être pas le cas. Non. Bon. Alors, donc là, on est sur la présentation donc de No Tours. Ça veut dire non touristique en fait. Donc c'est la notion d'un parcours sonore. On est tous habitués. Je fais juste un tout petit commentaire pour vous décrire un petit peu cette notion, ce concept de No Tours. On est habitué dans les musées à avoir une sorte de commentaire pas à pas, très localisé, de ce qu'on doit voir ou comment on doit comprendre les choses. Là, on va voir quelque chose. Donc, dans la notion de No Tours, il y a quelque chose de beaucoup plus, je dirais, poétique et libre. Donc, c'est un dispositif sonore de parcours dans l'espace.
Okay, for a while we were working on maps, on a web-based map where we gathered the sounds of Galicia.
Donc pendant un moment et pendant pas mal de temps, enfin ils ont commencé assez content.
I probably end my speech talking about this part of the job.
Donc ils ont commencé à faire des cartes de la Galice. De sons, des cartes sonores, des sons qui se trouvent en Galice, chez lui, dans sa région.
But to connect a bit with Sylvie's work, I've decided to start with No Tours. So our main idea was to get those sounds in the web map back again to reality, and we were inspired in a Lewis Carroll test about a one size map, so a map that would be the same size as the reality.
Donc ils ont eu envie de retourner, si vous voulez, dans la prise de son. Il y a une captation du réel. Eux, leur idée, donc pour No Tours, c'était de renvoyer, de réalimenter le réel de ces sons qu'ils y avaient puisés. Et ils ont été inspirés par, tout ça c'est sur le web, et ils ont été inspirés par un texte de Lewis Carroll, donc bien antérieur, sur une échelle 1, donc de taille réelle.
So our main idea was to work with a layer of information that can be above reality itself. And this layer of information would be a layer of sound.
Donc
so we decided to create some kind of augmented reality device, but based only in sound.
Donc ils ont décidé de créer une sorte de couche par-dessus la réalité, qu'ils pour augmenter la perception sonore, finalement. Ils appellent donc augmented reality, voilà, réalité augmentée. Donc la création d'un, comme d'un, pas d'un monde, mais enfin d'une couche supplémentaire qui permet l'interprétation ou, encore une fois, l'augmentation de la compréhension du monde.
So what Notus does is that allows you to walk along the space and listen the reality itself and listen another layer of sound mixed with the reality. Mm-hmm. So we use this tool to create a new narrative over space based in the mixture of recorded sound and real sound.
Donc en fait, ils construisent un espace narratif, donc il l'a déjà dit, qui se superpose à l'espace de la réalité, mais d'une autre nature. Et donc là, il introduit la notion de récit dans le parcours réel.
Et d'espace par-dessus. Au-dessus.
Et d'espace au-dessus.
Overspace.
Par-dessus.
So how we did it? Okay.
Une autre réalité, un petit peu.
We decided to use smartphones, and we decided to use Android because it's open and it's free to develop on Android. And we decided to take advantage of GPS technology so we could track the position of a user, of the phone of the
Donc
user.
Ils utilisent des smartphones, la plateforme Android et le GPS pour que la personne, l'utilisateur, soit repéré dans l'espace.
And we also decided to use 3D audio technology to create a very immersive and very hyper-realistic environment through headphones.
Donc ils utilisent aussi une technologie 3D du son pour que le spectateur soit vraiment enveloppé et immergé de façon très profonde dans l'expérience sonore.
So what you do basically with Notus is you walk. You walk with a phone and you walk with some headphones and you forget about technology.
Donc quand vous marchez avec cet équipement, vous ne faites que marcher avec donc des écouteurs et un téléphone dans la poche, mais sans regarder le téléphone. Hein. C'est vraiment une expérience auditive avant tout.
And what the telephone does is that it communicates with the satellite, so it knows where it is, and it plays sounds in relation to different positions.
Donc
so when you enter in an area, you can begin to listen to another sound or a new sound, or when you go out from this area, you are going to
Donc en fait, il y a rien entre vous, si vous voulez, et le satellite qui vous positionne et vous entrez dans des plages, on dira, ou dans des surfaces sonores au fur et à mesure de votre déplacement.
The tool itself, it's empty. So what you need is some kind of way to create the sound walks. So Notus allowed you to create this new experience based on augmented orality. And we also had to create an editor that would allow people to create their own sound walks.
Mm-hmm. Donc c'est au départ mise à disposition. Hein, c'est à soi de mettre les sons qu'on veut, mais il y a aussi un éditeur, donc on peut monter le son soi-même et remplir une sorte de base de données qui seront donc les éléments que vous allez écouter, les fichiers que vous allez écouter.
When we create a song work, we normally work a lot with memory and also with people. So our main previous works based on Notus are always about collective memory. And the great thing about this augmented reality is that you can add this layer to reality. You can connect with people living in a place through their stories and their talk and their sounds.
Donc ils partent de la réalité humaine, culturelle, et ils ont fait beaucoup d'enregistrements donc sur la mémoire du lieu. Donc quand vous vous promenez dans un lieu, vous avez accès du coup à cette couche supplémentaire de plus que d'informations, donc mémorielles.
And in some way, this is a way to work in an inverse way as audio guides, because audio guides would make a narration from power, from the history, facts, and not from the society and the people living places.
Donc c'est la grande différence avec l'audio guide qui vous donne des infos, de l'information, justement, la date, des choses assez strictes. Alors que là, on a accès à quelque chose de beaucoup plus humain, anthropologique, donc la mémoire, la vie des gens.
In this way, we change space. When this new layer of information, of experience, it's added to your experience, we transform the actual space. And through this new sound environment, we can create what we call mutant spaces. Spaces that change their actual being into something else.
Donc l'expérience de cette écoute est vraiment très très prenante. Et ça change considérablement l'approche et la compréhension, l'émotion qu'on a dans le lieu. Et ils appellent donc cet effet un mutant. Donc un espace mutant.
Ok, so here is an image of the view of the editor of this previous song work. So what you can create is a very complex sound experience based on space. It, in some way, it's a way of making a sound composition, but instead of basing it on a timeline, you base it on space. And whenever a person tries to walk the space, it's going to create their own version of the song work, because there's no way to know how long this person is going to walk and in what directions or through what spaces. So it's a very open and different way of creating a sound composition.
Donc c'est vraiment une façon de créer des partitions sonores qui est lié au déplacement réel de la personne dans l'espace. Donc il y a mise à disposition des nappes sonores dans lesquelles on entre en tant qu'usager, ou on sort, et on aurait pu entrer dans celle-ci plutôt que celle-là au hasard de ses pas. Donc quoi qu'il en soit, il faut que leur construction artistique soit toujours cohérente malgré tout. Donc c'est vraiment typiquement multimédia, donc d'arriver à construire du sens à partir de l'aléatoire. Du déplacement.
But finally, even though technology that involves the project, it's complex, what we like about the project is that when you have the phone and you have already downloaded this song work to your phone, you just have to plug your headphones, put them, and begin to walk. And from this moment, you can forget about technology. It's about an experience. And you get this real connection with the real space and with this new experience, that it's making links between the memory of the space, the history of the space, the sound of the space. And it's really a very nice augmented experience, because it doesn't puts you apart from reality.
Donc c'est une expérience très libre. Une fois, bon, ça peut paraître complexe le dispositif lui-même, mais maintenant que l'application est construite et une fois que les sons sont sur la base de données, pour le marcheur, c'est vraiment une expérience extrêmement enrichissante et libre, parce que il n'a qu'une chose à faire, c'est à marcher librement et à écouter. Donc ça, c'est vrai que ça émousse, ça comment dire, amplifie votre perception de ce lieu, des lieux que vous traversez.
This is an image of the phone when you open it, but we like to have this black box so you don't know where to find sounds and you just walk.
Voilà, donc une fois que le téléphone est dans la boîte noire, vous le mettez dans votre poche et vous oubliez tout, vous vous laissez aller à l'expérience.
I have chosen like four projects we've already developed based on Notours. This one was in Gijón, in Laboral. And the idea was to create a little audio guide of a neighborhood called Cima de Villa. But the audio guide would be the history of somebody, a neighborhood in the place, a neighbor from the place. Mm-hmm. And the person we choose, it's called Pepe Bajamar, it's in the image, and he's a person that has lived in the neighborhood for probably all his life. So the history he tells is not based on facts or on books. It's based on his experience, people he knew, and all his memories about the place.
L'un des projets qu'ils ont développé, c'est autour de la mémoire de vie, donc un récit de vie de ce monsieur Pépé. Donc là encore, on n'est pas dans un audio guide qui vous délivre des faits et des dates, mais bien dans l'expérience personnelle de quelqu'un sensible, l'expérience sensible.
Another work we've developed based on Notours, it's called The Angel. It's in Madrid, in Retiro Park, and there is a sculpture on Lucifer. So we decided to create a more poetic and more sound composition-based work in what you would walk around the park trying to find special words to create a text. So the idea was to work around poets that have worked on Lucifer idea, and that you would walk in a very dark ambient, trying to find special words to create a phrase.
Donc un autre travail qu'ils ont situé autour d'une représentation de Lucifer, donc une sculpture qui se trouve dans Madrid. Et là, ils ont alimenté le travail de mots et de phrases de poètes qui eux-mêmes avaient écrit sur Lucifer. Donc quand vous traversez cet endroit, c'est une zone un peu noire, où vous montez votre propre poésie à partir de ces phrases qui habitent le lieu. Maybe we could hear some of it, no?
Yeah.
I mean, after.
Yeah, I plan to punch on some after.
Oui.
Okay, this one, it was just a little walk around a little village, and those are sounds we recorded in the place. So the experience of the walk was like if you could have a better hearing and you could hear much more than you really do. So it was an augmented soundscape because the recordings would amplify the special sounds of the area.
Donc là aussi, c'est une promenade dans un petit village. Mais il y a eu un travail d'enregistrement assez poussé qui vous permet d'accéder à une variété sonore très très large. Et lorsque vous traversez donc ce village grâce à ce dispositif, vous accédez à une sensibilité accrue du lieu.
This one, it was based on histories, and it's a little workshop we gave at SMAC, trying to create interactive stories with children that would react to your path. So depending on the path you would take, the history would change. It was about children stories you would tell at night, and it was a way of using the device as a narrative tool.
And the children had written the words. Yeah. Donc là, c'est un atelier d'écriture avec des enfants à Ghent, lors d'un workshop. Et la promenade vous donne accès donc à cette poésie sonore, on peut dire enfantine.
Et la capacité d'utiliser comme outil narratif.
Et la capacité d'utiliser le No Tours application comme un outil pour construire des narrations, des récits.
And finally, this last walk, it was made in Tallinn, in Estonia. And we were invited for an exhibition during summer, but we produced the song walk during winter. So most of the theme of the song walk is this very, very hard difference between summer and winter. So when people walk the place, it was summer, but all the sounds were recorded during winter. And it was some way of making a time travel through sound. I choose all the projects so you could see how you could get very different approaches on working in a new layer of sound and how flexible a very simple idea can be.
Donc là, dans ce projet en Estonie, à Tallinn, ils ont enregistré du son en hiver, mais il était les gens l'écoutaient en été. Donc il marchait en été avec une écoute sonore des sonorités d'hiver qui doit être très troublante et très, très intéressante. Donc cette espèce de clash temporel entre deux saisons sur un même lieu. Je trouve ça assez intéressant. Donc il dit qu'il a choisi ces exemples pour vous montrer la variété des approches qui peuvent être faites avec cette application No Tours.
Now maybe we can see how our map works and we can listen to some sounds.
Donc our idea, on va regarder normally, comment fonctionne la carte et écouter des sons.
I would start from the map and then end with the No Tours project. But maybe this idea of working on maps can make a link with next
Donc normalement, il arrête sa présentation de No Tours, mais pour faire un lien éventuellement avec le prochain, avec Pedro ensuite, donc il va nous faire écouter des sons, mais je crois que ça c'est nécessaire.
Very silent recording.
Tienes unidos de Santiago de Compostela?
Yep.
On pourrait écouter Santiago de Compostela, pourquoi pas, puisqu'on en parlait tout à l'heure.
Very quiet. Oh.
Yeah. je dois dire que c'est beaucoup plus...
industrial sounds. I'm trying to find a particular category where we can find bells. Here we can find bells. All those pink sounds are related with sound signals. So this one is a train level pass, and we should definitely have.
Thank you, Horacio. We thank you very much for this presentation.
Je ferai juste un petit commentaire.
Just one thing. We have a similar experience here with a collective from Paris, MU, REMU. I don't know if you know this collective. And I'm very okay with the principle of mutant space because it changed completely the approach from a space when you use this sound and the possibilities to use spatialization with the hearing system.
Et c'est vraiment une expérience à vivre. De consulter comme ça assis, c'est pas du tout pareil. Il faut vraiment vivre cette expérience.
Je vous conseille, alors, juste en parenthèse, c'est qu'il y a aussi la possibilité, les choses vont très vite, il y a l'approche artistique, évidemment, mais Google, par exemple, a mis une application, c'est très récent, qui s'appelle App Inventor, qui permet de créer des petites applications comme ça, de façon très facile, enfin en tout cas sans passer par des lignes de code complexes en Java, et qui permet de créer des applications pour mettre directement sur un Android. Ça s'appelle App Inventor. Pour ceux qui sont intéressés, je pourrais donner l'information. C'est quelque chose de très récent, développé par Google, et qui permet d'expérimenter soi-même, pour le plaisir, ce genre d'expérimentation, pour découvrir un espace et rajouter, par rapport à de la géolocalisation, du son, des indications visuelles. Enfin, c'est assez surprenant. Pour ceux que ça intéresse, il y a moyen d'élaborer des choses simples, mais déjà assez efficaces, dans la lignée de ce que vient d'expliquer Horacio. Ça, c'est une approche spécifique, et après je vais enchaîner avec Pedro, mais qui permet vraiment d'utiliser la géolocalisation sur un principe d'espace mutant, de redéfinir des espaces, soit sur des projets artistiques, mais après, c'est vrai qu'il y a plein d'applications autres. Nous, on a eu la demande par rapport à ces outils avec des personnes en situation de handicap, par exemple. Enfin, plein de choses à imaginer, à mettre en place artistiquement ou sur des approches un petit peu plus prosaïques, mais néanmoins abordables maintenant pour le grand public. Je vais en profiter et je remercie encore Horacio pour sa présentation. Pour toujours rester dans le domaine de la cartographie, mais on vous l'avait promis, on va aborder une phase un petit peu plus politique avec Pedro, qui va nous parler donc de l'utilisation de ces outils pour coordonner des actions, pour échanger des informations de façon, on va dire, un petit peu plus sociale, citoyenne. Donc voilà, Pedro va nous parler
d'une actualité chaude du moment. Et demain, on ira peut-être la tester à la sortie des usines d'Ingrandes, les fonderies de l'Ouest. Pour montrer aux ouvriers aussi que le numérique, ce n'est pas qu'un outil dédié au grand capital, mais qu'on peut utiliser ces outils à la fois artistiquement et socialement.
Donc, bonsoir. Donc, je pense que cette idée de resignifier l'espace est extrêmement importante. Je suis très content de l'invitation d'être ici. Merci beaucoup. Et il y a des thèmes qui sont sortis dans les deux présentations antérieures, qui étaient donc le thème de la frontière, le thème de la resignification de l'espace, le thème de la cartographie. Et donc moi, j'ai beaucoup hésité pour accepter cette invitation, parce qu'aujourd'hui c'est une journée grande, et donc évidemment j'avais envie d'être dans la rue avec les miens. Mais donc j'ai regardé dans cette carte, et le jour que j'ai regardé dans cette carte, il n'y avait donc rien à Poitiers. Et donc je me suis dit, j'ai envie d'être ici avec Patrick et ces gens-là, Marika, Milan. Mais aussi donc, peut-être je devrais vous raconter un peu ce qui est en train de se passer. Quelque chose de similaire m'est passé en juin. J'étais à Ljubljana et j'ai découvert aussi mon grand étonnement que, autant qu'on est dans un monde hyper connecté, hyper international, que les flux d'informations sont extrêmement contrôlés. Donc, quand on avait les manifestations de l'occupation des places en Espagne, dans ma ville de Barcelone, on s'est donc occupé la place centrale pendant plusieurs semaines, donc il n'y avait aucune connaissance de ça à Ljubljana. Donc je me suis dit, peut-être à Poitiers, ce serait pareil. Mais ceci dit, dans l'entretemps, on a donc eu ici une apparition à Poitiers. Donc occupation générale pour un changement global. Vous en saviez quelque chose? Vous avez vu quelque chose dans la ville? Donc je pense que ça illustre aussi... D'un côté, le pouvoir de visualiser tout ça, mais aussi le côté que peut-être ce n'est pas toujours une réalité. Ceci dit, donc, moi, ce que j'utilise depuis le 25 janvier, j'étais en décembre en Égypte, j'ai travaillé plusieurs années en Égypte en montant une espèce de Media Lab là-bas avec software libre. Avec des projets artistiques avec software libre, ça veut dire avec du software qui n'a pas de licence, il ne faut pas rien payer. Et aussi, c'est-à-dire que tu peux accéder au code, donc c'est très utile pour les projets artistiques, non seulement parce que ça permet d'accéder pour un moindre coût aux technologies, sinon aussi que ça permet que l'œuvre a une pérennité qui ne dépend pas des sociétés des licences. C'est un peu long, non? Je peux quitter des trucs ici? Ça, je peux fermer, non? Voilà, le 15 octobre, vous avez peut-être vu ce qui s'est passé il y a peu aux États-Unis. Moi, j'étais donc au Caire au mois de décembre. Je pars et deux semaines plus tard, il y a donc le 25 janvier, que peut-être vous avez vu ce qui s'est passé au Caire. On a fait tomber Moubarak. Donc nous, on avait participé dans le processus, disons, de penser au niveau artistique, dans ce que c'est le software libre, de ce que c'est le pansement de partager, de la transparence, de l'ouverture. Et donc, on n'était pas du tout responsable là-dedans, mais on a quand même participé à ce processus d'ouverture. Et donc, ça a déclenché avec Tunis, avec le Caire, ça a déclenché donc une vague dans le monde entier qui a été donc explicitement reconnue dans ce qui s'est passé le 15 mai en Espagne surtout, qui était donc à passer un peu en France aussi, place de la Bastille, qui était très durement réprimé par les forces de l'ordre. Donc qui était à cette conscience globale. Et cette conscience qu'en fait, des situations qui paraissaient complètement inamovibles, qui paraissaient en fait la réalité, c'est-à-dire que moi et tous mes amis en décembre au Caire, on n'imaginait jamais que Moubarak pourrait tomber d'ici 3 semaines. C'était inimaginable, tout le monde le désirait, mais c'était inimaginable. Donc avec cette énorme resignification collective de l'espace public, l'espace partagé, en fait, ça peut avoir des effets extrêmement réels. Ce process-là, donc, en Espagne, comme je dis, en référence explicite à ce qui s'est passé au sud de la Méditerranée, donc on a commencé à travailler dans cette ligne-là, basée sur toute une histoire aussi de travail tant artistique comme activiste. Et donc, on a donc ce mouvement d'occupation des places, qui a continué dans un travail d'assemblée dans les quartiers, donc un travail de fond de quartier. Ça me rappelle un peu Félix Castan et le travail de Toulouse de ces gens-là, les assemblées des quartiers qui montaient les fabuleuses troubadours. Et donc, il y a 3 semaines, donc, finalement, la grande bête États-Unis s'est joint à cette resignification collective de notre espace social, c'est-à-dire le capitalisme, c'est-à-dire le monde dans lequel vous vivez, avec ses règles, avec tout ça, c'est chiant, quoi. Il faut qu'on trouve du boulot, on est tous précaires, on prend des antidépressants. Je vous rappelle que 20% de la population française prend des anti-anxiolytiques ou antidépressants, un cinquième de la population. Mais cette situation-là qui paraît donc complètement inamovible est inamovible, et c'est ce qui nous a montré ce qui s'est passé en Tunis et en Caire. Donc ça a lancé tout ce mouvement, et donc on a décidé, tout le monde a donc commencé à faire, qu'est-ce qui se passe ici, Twitter, c'est bloqué ici dans la Mendes France.
Non, normalement.
Leur demander n'a pu être chargé. En fait, dans le Facebook de TV3, qui est la chaîne nationale catalane, ils sont en train d'éliminer tous les commentaires sur les manifestations qui ont eu lieu aujourd'hui. La manifestation a terminé dans un grand bloc. Il y a eu 250 000 personnes à Barcelone, 500 000 personnes à Madrid, il y a eu 1 000 personnes à Berlin, il y a eu à Sydney, à Hong Kong, en Amérique latine, à Chili. Je veux dire que c'est la première manifestation globale coordonnée dans 800 villes le même jour. C'est-à-dire qu'on n'est pas seul à penser qu'il y a peut-être une autre réalité, qu'il y a peut-être une manière de vivre plus pleinement, que ce n'est peut-être pas une fatalité qu'il y a 1% qui sont les maîtres du monde, qui vit dans un luxe ahurissant et insultant, tandis qu'on est des millions et des millions de crèver de faim. Je pense que si on le pense froidement, ce n'est pas un monde qu'on désire. Et on n'est pas le seul à penser ça. Et cette carte-là nous rappelle de ce fait-ci. C'est, j'insiste, un phénomène global. Ce phénomène global, évidemment, n'est pas un résultat du numérique. Je veux dire qu'on sent ensemble, on est humain. C'est-à-dire quoi que humain, il regarde ça, il dit c'est pas correct, c'est pas juste. Donc ce n'est pas par si même un travail du numérique ni de l'art. Ce qu'on fait avec le numérique de l'art, c'est donner du forme à ça. C'est ce qui a commenté avant Horatio, c'est se resignifier l'espace, d'ouvrir des brèches, comme a fait aussi la pièce en bas, l'installation en bas, qui prend ce qui paraît un liquide et qui le monte et qui le fait briller, qui est contre nature, mais qui en fait, ce qu'il fait, c'est qu'il révèle la nature. Il visibilise les forces, les champs magnétiques. Les champs magnétiques sont là. Normalement, ils sont invisibles. Ce que cette pièce fait, c'est les visibiliser. Et c'est un peu ce qui fait l'art et le numérique aujourd'hui. Donc, je pense que c'est en train de, c'est une bonne nouvelle peut-être. Twitter est saturé. Oui. Donc, ce que j'avais envie de vous voir, de vous montrer, c'était ce qui est en train de passer au niveau de Twitter, parce que c'est comme ça que moi je m'informe ce qui est en train de se passer. Je vous rappelle aussi que dans cette année est extrêmement excitante dans ce niveau-là aussi, parce qu'il y a eu tout le...
C'est partout, en France, en Espagne.
Mais peut-être ils le coupent aussi. C'est-à-dire que c'est assez une autre... Je vais voir si N-1 est opératif. Parce que c'est aussi là, c'est intéressant, parce que la question, c'est la fragilité de nos infrastructures. Vamos savoir comment on va ici. Ah, ben, nos réseaux alternatifs fonctionnent. Donc, ceci est M-1, que c'est un projet d'activiste, d'artiste, de programmeur, surtout des gens aussi qui sont... qui travaille sur un projet plus ample encore, qui développe et qui, ça, tu as vu comment ça charge, donc de l'idée d'un Facebook ou d'une espèce de Twitter partagé qui est donc software libre et dans lequel vos images vous appartiennent. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune société qui est en train de s'enrichir sur votre dos, parce que chaque photo que vous publiez sur Facebook, ça devient le droit de Facebook de l'utiliser. En fait, tu enrichis Mark Zuckerberg de quelques dollars de plus. Votre participation au Facebook et au Twitter, qui est la grande ironie aussi de tout ça, je veux dire que Facebook et Twitter ont été essentiels dans les révolutions qui se sont passées cette année, mais en même temps, ce sont des médiums de communication très fragiles. On a vu ça aussi avec les émeutes récentes à Londres, qui étaient nommées si Tunis et Égypte étaient la révolution Facebook. Ils ont dit que Londres, c'était la révolution BlackBerry. Parce que tout le monde faisait les messages en BlackBerry, mais donc tous ces messages-là et tous les gens qui l'ont envoyé sont dans le serveur de BlackBerry. Leur système, effectivement, est tombé ces derniers jours. Ça devient très fragile si l'on ne prend pas dans nos mains les technologies aussi nous-mêmes, qu'on devient des acteurs là-dedans. Et c'est pour ça le software libre, c'est pour ça que NoTools est libre, c'est pour ça qu'on travaille, par exemple, sur M-1, qui est donc... comme une Facebook, donc ici à Rome, il y a eu des centaines de millions de personnes. Là, il y a eu du Black Bloc qui sont intervenus aussi en Grèce. Donc ici, j'ai un système d'actualisation en temps réel aussi. Et un autre projet qui s'appelle GIS, qui est aussi un système de transmission de radio, de télévision libre aussi. C'est-à-dire que si on ne prend pas ça dans nos mains et contre nos serveurs, c'est extrêmement facile pour eux parce que ça commence à faire des vagues. Les médias traditionnels, vous avez vu en France, ça ne donne aucune couverture. Sûrement beaucoup de vous, vous n'avez aucune idée de ce qui est en train de passer aujourd'hui. Et donc, il y a donc deux parties à ça. Donc, il y a toute la partie, disons, de se rendre compte, mais la partie de commencer à travailler sur les outils, d'avoir une vision du futur, travailler sur des outils libres qui nous permettent de reconfigurer l'espace, de resignifier l'espace. Et je comprends donc que ces trois projets qu'on a proposés ce soir, c'est une question de resignifier l'espace, c'est une question d'utiliser des outils artistiques de quelque part, mais ce n'est pas juste un jeu. Je veux dire qu'on est en train de resignifier vers une réalité parce qu'on est attrapé, et vous avez tous votre merveilleux guide de bord, ici, qu'on n'a pas oublié, j'espère, la société du spectacle et tout ça. Ça, c'est une référence pour vous ? Pour vous ? Guy Debord ? Raoul Van Eggen ? Société du spectacle ? Donc, sa proposition, c'était que ce qui se passe avec le capitalisme, que ce qui fait le capitalisme, ce qui a fait la christianité avant, c'est le précurseur du capitalisme, c'est la christianité, ce qu'il a fait, c'était basiquement... depuis les croisades qui étaient commencées avec l'attaque sur le sud de la France, sur l'Occitanie, qui a donc, pendant 500 ans, a éliminé toute différence, commencé avec les hérétiques, suivi avec les juifs et les mendiants, les lépreux, et terminé avec le grand nettoyage des femmes, qui est donné des chasses aux sorcières. Donc c'était donc un système... administré par l'Inquisition, ça a duré voilà, plus ou moins 500 ans. Et donc, qui a abouti donc, dans le capitalisme, dans un système absolu de voir le monde, d'éliminer la différence. Et voilà, je me rappelais pourquoi je disais ça. Ah, pour Guy Debord, exactement. Donc, la phase ultime de tout ça, c'est donc de te faire croire, de créer un spectacle et de faire croire que c'est la réalité. Et donc, là où on est maintenant, on est en train de vivre la société spectacle qui est aussi ceci, qui est aussi ceci. Donc, voilà, ils disent, on est désolé qu'on ne peut pas tweeter avec fluidité. Et si on ne peut pas traduire automatiquement? Où c'est la traduction ici? Pour passer en français. Bon, je vais trouver traduire. Donc, Twitter est collapsé, ils disent. Donc, là, il y a donc l'occupation. Là, à Barcelone, ils sont en train d'occuper une maison. Voilà. Donc là, ils sont en train de faire un paella, non, pour tous les gens là-bas. Donc, il y a Cadiz. C'est une ville dans le sud de l'Espagne. Ils sont dans la rue. Maintenant, ça, c'est Brésil. Donc, eux, ils sont aussi là dans la rue, dans la plaza. Ils ont Porto Alegre. Donc là, Pamplona, autre ville d'Espagne. En Syrie, il y a 20 personnes qui sont mortes aujourd'hui, en Syrie. Les Libyens sont en train de lutter à Sirte. Ils ont des luttes absolument... ils sont en train de se tuer absolument là-bas en Sirte. Donc, aux États-Unis, ils ont bloqué Wall Street. C'est fermé Wall Street, les gens ne peuvent pas passer. Donc, il y a grietas, des fissures qui sont en train d'apparaître dans cette société des spectacles grâce, quelque part, à ces médiums de communication qui nous permettent de voir. Et je ne sais pas si vous avez vu ce qui s'est passé à New York sur le pont de Brooklyn, où les gens chantaient, tout le monde peut vous voir. Quand la police est venue violemment à enlever les protesteurs, ils chantaient, tout le monde peut vous voir. Et c'est la différence qui s'est passée cette année. C'est-à-dire que cette société spectacle dépend sur le contrôle des médias et le contrôle de la perception, comme a fait le christianisme, d'éliminer la différence, de resignifier les lieux sacrés ont été resignifiés, c'était nommé d'un saint, c'était mis en église là-dessus, dessus des lieux sacrés qui étaient sacrés depuis des siècles. Vous avez travaillé sur le chemin de Santiago, ce chemin, c'est des milliers d'années, ça existe. Et en fait, c'était le pèlerinage à voir la fin du monde, Finistère. C'était le pèlerinage qu'on faisait tous pour voir où le sol se mettait dans l'océan. La fin du monde, quand on croyait le monde était un disque, le sol se mettait là. Donc, le christianisme, qu'est-ce qu'il fait? Il resignifie la réalité pour dire non, mais ça, c'est un saint, ça, c'est nous, ça, c'est Dieu qui a fait ça. Et donc, la société du spectacle, il va encore plus loin. Il dit que c'est le fric qui fait ça. Il se dit c'est la science qui fait ça. Non, mais c'est normal, mais t'es un loser, t'as pas de fric, mais c'était prendre son problème. C'est comme Doc Gynéco, tu vois, que Sarkozy dit, si vous voulez gagner du fric, mais travaillez. Et Doc Gynéco, il a dit, ouais, il était là sur la campagne. Et qu'est-ce que c'est? Où est Doc Gynéco maintenant? Quelqu'un le sait? Quelqu'un suit ce qui se passe avec Doc Gynéco? Mais il s'est pointé au Pôle emploi. Parce que c'est pas vrai, vous ne méritez pas. Ce n'est pas comme ça que ça fonctionne les choses. Tout le monde, il y a suffisamment de sur la terre pour que tout le monde mange. Il y a des vêtements et un lieu pour dormir. Et ça, c'est systématiquement nié par une espèce de réalité hallucinée créée par, en grande partie, par un contrôle. Comme j'ai dit, une préparation dans les esprits, mais aujourd'hui, un contrôle des médias. Donc ce qui s'est passé avec Twitter, avec Facebook, et ce qu'on est en train de développer dans ce genre de projet de processus de software libre, no tools, tout ça, c'est donc de se resignification pour dire vous pouvez faire des choses, il y a beaucoup d'autres membres qui sont descendus aujourd'hui dans la rue, ça va continuer, et je vous invite donc à vous connecter. Merci.
Merci Pedro. Voilà, je pense qu'on a un petit peu été plus loin que la notion d'art numérique traditionnellement
Non, mais je me suis convoqué. C'est une promesse que j'ai fait à moi-même. Aussi, j'ai fait plein d'art numérique. Hein. Oui. Mais c'est une promesse que j'ai fait à moi-même pour venir ici.
Et je remercie profondément Pedro, parce que je pense qu'on en est là et que c'est bien de mettre un petit peu de distance sur ces pratiques. Et là, tu vas mettre ton porte-à-faux, puisqu'on a parlé de Société du spectacle, de Debord. On aurait pu convoquer aussi William Burroughs et la société et le principe de contrôle. Mais je pense que c'est intéressant, en tout cas, pour des étudiants en art et qui sont impliqués aussi dans la chose numérique, de voir, par exemple, ce qui est extrêmement important, qui a été évoqué, d'utiliser des outils propriétaires et peut-être de penser au développement d'outils libres et open source, parce que ce ne sont pas que des approches superficielles. C'est aussi, je crois, quand on parle du logiciel libre, du FLOSS et de l'open source, on parle vraiment d'une philosophie qui se joue aussi sur la notion d'échange. J'avais commencé sur le principe de relation et comment établir une relation autrement que par des échanges. Et là, toute la semaine, on a eu aussi des principes sur ce qu'est la créativité. On a même eu un débat hier extrêmement intéressant sur l'économie de la créativité. Et il est peut-être intéressant de convoquer aussi des choses comme ce qu'on appelle l'économie solidaire, le partage, l'échange, le troc. Je crois qu'on le fait tous sans le savoir, et que peut-être que dans la création, sans mettre en porte-à-faux forcément, parce que ça serait aussi un débat dans le débat, la notion de droit d'auteur, peut-être aussi de revisiter ces principes d'échange et de co-création, de co-construction, enfin des choses qu'on a peut-être trop tendance à mettre de côté dans une société qui prône l'individualisme forcené. Voilà, je vais arrêter là. Maintenant, je vais vous passer la parole. J'imagine que vous avez peut-être quelques questions, peut-être pour parler de cette question de la création numérique, de l'art numérique. Voilà, donc profitez de la présence de nos amis espagnols et de Sylvie pour peut-être aller plus loin sur les questions, sur ce que vous avez entendu, sur ce rapport au numérique en tout cas, et d'usage, parce que c'est un mot dont on n'a pas parlé. Je pense qu'on est aussi dans la sphère de l'usage, dont fait partie la créativité, la citoyenneté, l'expression humaine dans toute sa beauté, dans toute sa splendeur. Je vous passe la parole, je ne sais pas. On dit toujours traditionnellement que la première question est la plus difficile. Pas de questions. Bon, moi je vais en poser une, je vais l'improviser, mais je voudrais revenir avec Pedro sur cette expérience, puisque tu as parlé de ce qui s'est passé en Égypte. Moi j'aimerais bien revenir un peu dessus et comment ces ateliers au Caire se sont mis en place. Et comment vous avez travaillé la relation et la collaboration, puisque c'était des ateliers de création avec les outils numériques. Qu'est-ce que vous avez mis en place et sous quelle forme, et la collaboration avec les populations qui ne sont a priori pas forcément...
Non, c'était avec eux, super. Non, ce qui s'est passé, c'est que nous, on monte annuellement, on fait un événement qui s'appelle le Sarma Lab, qui est donc une rencontre de créateurs, investigateurs... dans divers domaines, dans lequel donc c'est une organisation dans laquelle nous on a un petit budget pour couvrir le logement et le bouffe, et donc les gens ils proposent des choses qu'ils veulent travailler, donc de toutes ces propositions émergent des nodes, donc des points de croisement d'intérêt, et donc il y a une semaine ensemble à travailler. Donc un artiste égyptien est venu à ce rencontre-là, il a beaucoup aimé ce qu'il a vu, il a voulu quelque chose comme ça, et donc il a convaincu l'ambassade espagnole, qui avait un homme excellent là-bas à ce moment, qui pour nous amener à faire un atelier dans le cadre du Biennale de l'art contemporain du Caire. Donc en fait c'est une très bonne question, parce que ça montre aussi la relation, comment le champ de l'art peut être un champ dans lequel on peut encore réaliser des chemins d'entraînement. Et donc, ils nous invitent, on a fait donc un atelier, au matin, on a fait du hardware, pour fabriquer des instruments musicaux en électronique, pour souder tout ça, et l'après-midi avec Pure Data, qui est un logiciel donc de faire de la musique, du vidéo. Donc, ça a plu, et donc on a commencé un projet à plus long terme avec eux, qui s'appelle Open Lab Egypt. Donc, en Espagne aussi, on a dit, olé, olé. Olé,
Donc, c'est-à-dire que quand tu fais quelque chose qui est chouette, olé, on dit olé. En fait, ça vient de Yalla. C'est un autre héritier de l'époque arabe. Et donc, c'est Open Lab Egypt, c'est donc olé aussi. Donc, c'est une petite... Et donc, ça a concrétisé par des ateliers. On a fait des ateliers d'introduction au début. Et après, la deuxième année, on a fait donc, avec l'intérêt de former, ce qu'on a vraiment l'idée, c'était de nous, en notre intervention, devrait, sur le court terme, on devrait donc intervenir, former les gens et pouvoir se retirer et ça continue. Donc, la première année, c'était donc des ateliers avec des artistes locaux en collaboration avec un groupe d'artistes qui s'appelle Medrar. Et donc... On a travaillé ensemble là-dessus. Pour eux, c'était fort aussi parce que la culture artistique en Égypte et en général, disons traditionnellement, c'est une culture très individualiste. C'est-à-dire que toi, tu as ton idée, tu es dans ton atelier, tu peins, et donc ton métier, disons, tu as place dans le spectacle, disons, c'est un spectacle, c'est individuel, c'est être Pablo Picasso, ou Torres, ou l'artiste. Et donc, eux, ils sont très comme ça. Donc, c'était toute l'idée qui est autour de, aussi, non seulement du software libre, mais sinon la création multimédia, qu'on est vraiment rarement, on peut être seul là-dedans. C'est-à-dire qu'il y a toujours un travail, même s'il y a une collaboration avec Google. Je veux dire qu'il y a toujours cette relation avec la collectivité dans la création numérique. Et donc, c'était très intéressant le travail qu'on a fait ensemble avec eux. On a commencé à générer des installations et tout ça. Et la deuxième année, on a donc fait des résidences d'artistes dans lesquelles il y avait des masterclass vraiment de formation, dans le sens de formation pour former d'autres. Et à la fin de ce processus, donc, on a fait un expo qui est ici. C'est-à-dire que je ne suis pas dans mon nom d'état parce qu'il va trop long. Open Lab Egypt, Script D. Et donc, à la fin du processus, jusqu'à là, moi, j'étais impliqué. On a fait donc une exposition en décembre dernier, juste avant la révolution. Et donc c'était, comme je dis, c'était très intéressant aussi parce qu'il y avait cette exposition, c'était aussi dans le cadre du Biennale, donc c'était 2 ans plus tard. Dans le premier biennale, on était allé, il n'y avait presque pas d'activité en parallèle, presque rien au Caire. Et cette année, il y avait plein de choses, surtout dans un vieux hôtel qui était abandonné. Donc, ils avaient négocié que les propriétaires le prêtent. Et donc, il y avait l'expo de Open Lab Egypt avec les installations qu'avaient fait les artistes. Et une autre grande expo aussi qu'avaient organisé les propres artistes, sans subvention aucune. Et c'était la première fois qu'il y a eu, donc, organisé par les propres artistes, un expo qui était donc, dans l'esprit des choses, vraiment un précurseur de ce que se passerait un mois plus tard dans la rue, dans la Plaza Tahrir.
Alors, ce que tu définis, là, c'est un autre mot qu'on va faire intervenir, c'est un principe de contamination. Et j'aime bien, enfin, je trouve intéressant cette idée d'apprendre, finalement, pour permettre d'apprendre à d'autres groupes qui cristallisent un peu ce principe de contamination. Est-ce que le numérique et l'expérience du Caire, par exemple, et je voudrais le traduire et expliquer à Horacio, for example, when you work with children, you make workshop with the children, how do you proceed to make this link with children and to make production not artistical production, but a sort of mutant pedagogy between children and the possibility to use geolocalization, sound, and to make a sort of exploration of new possibilities with numeric.
In that case, our idea was one of the best thing of Notus, it's non-linear narrative. So we are very inspired of the idea of the deriva, the rib. And this idea
aussi impliqué Guy Debord, ça c'est les situationnistes qui inventent l'idée du dérive, vraiment de déstructurer notre vie quotidienne parce qu'on prend toujours la même route. Donc leur idée c'était se laisser porter par une autre géographie de l'espace. C'était les situationnistes, Raoul Vanegan, Ben Hodge, non, il y avait cette et Guy Debord, la dérive.
And what we like to do with children is to work on this idea of non-linear narrative. And when you walk in a park, for example, it's quite obvious that you can at some point choose two or three paths. And depending on what path you are going to choose, your story can change. So it was a very easy way for us to work with them in this idea of non-linear narrative. That can be a very complex concept, but in this way, it was very easy to work with them.
Alors, là, on revient sur l'histoire de structure narrative non linéaire et d'étudier des possibilités donc de choix, de points de choix, et qui permettent donc aux enfants, sur un principe de prise de décision, de se confronter à ce principe de choix qui en soi-même, c'est moi qui le rajoute, c'est ce principe de pédagogie un petit peu nouvelle, de mettre devant une situation et de proposer un choix dans le cadre de ces ateliers. Et donc Sylvie, toi, par rapport à ton travail, sous une autre forme, quand vous avez rencontré ces personnes qui sont à la frontière, on a eu l'occasion aussi de rencontrer des artistes de Chihuahua, est-ce que vous avez rencontré des gens qui sont, par exemple, totalement éloignés de la sphère du numérique et avec lesquels vous avez pu établir des liens et peut-être, je ne sais pas, faire des échanges numériques ou comment ça s'est passé pendant 8 mois, ces rencontres avec les populations artistiques, évidemment, mais aussi non artistiques.
On a noté que les seules personnes qui reconnaissaient du côté mexicain l'existence des migrants sont justement les artistes. Parce que sinon, il y a un facteur d'oubli une fois qu'on passe la frontière. Grâce au téléphone portable, il est possible pour certaines familles de garder le contact. Mais pour des questions économiques, beaucoup n'ont pas de téléphone portable ou ensuite plus d'argent pour le forfait, etc. Mais quand même, le téléphone permet de garder des contacts entre les deux côtés. Par contre, sur ce que vivent les migrants au quotidien et sur ce qui se sait du côté mexicain... tout le monde évidemment est au courant, mais il y a une espèce de plomb, de silence, disons, de souffrance aussi. Mais il n'y a pas de commémoration ou de hormis les actes artistiques, donc soit des marches, soit des performances, soit des concerts dans les passages sous la frontière même, soit des interventions sur plastique sur le mur, soit des écritures. Donc on a vu aussi des performances de poèmes lancés par-dessus la frontière sur des comment ça s'appelle? Des avions à papier ou des cerfs-volants. Mais par rapport au numérique, il y a plusieurs projets, donc justement, de mise à disposition de téléphones par des groupes d'artistes de l'autre côté de la frontière. Donc ceux qui ont un passeport et qui peuvent aller du côté américain ou anglo-saxon, ou des artistes anglo-saxons eux-mêmes, ou des mexicano-américains, donc militent eux aussi avec cette mise à disposition de téléphones ou de GPS aussi. Donc il y a des choses très inventives qui sont mises en place pour essayer de repérer des chemins. Donc il y a côte à côte donc les Minutemen qui utilisent, eux, les caméras, les webcams, pour observer le mouvement des migrants et dénoncer les migrants à la Migra. Mais il y a de façon équilibrée, je dirais, quelques petits groupes, ils ne sont pas nombreux, ni les uns ni les autres, donc d'artistes qui... Bon, il y a aussi des associations humanitaires. Hein. Mais sur la frontière même, il y a une espèce de... Je sais pas, de silence... hormis le bruit que et la prise de parole opérée par les artistes. Ça, c'est, et c'est comme ça qu'on a rencontré donc, ces groupes d'artistes, donc Performance et Air à mourir, sur la frontière, des groupes de Rarámuri échoués aussi à Ciudad Juárez. Et donc, y a, grâce à Facebook et en particulier et à d'autres sites, réseaux sociaux. Donc ce groupe est en train de se développer à une vitesse grand V et donc un groupe véritablement international de performeurs engagés aussi, donc non pas avec, seulement avec un travail sur le web et le numérique, mais engagés avec leur corps, c'est-à-dire des performances de rue dans l'espace public, voilà. Que tu connais, qui sont très, qu'on a amené ici, et donc nous c'est quelque chose qui nous porte énormément aussi et qui se prolonge, qui fait qu'en effet il y a comme pas un raz-de-marée encore, mais une vraie force quoi.
Ce qu'on a pu constater, c'est vraiment le niveau de violence assez époustouflant et évidemment des propositions artistiques qui sont symboliques mais porteurs d'une violence qu'on n'imagine pas ici, en tout cas.
Et il nous semblait important, donc, dans la forme des structures des installations, que il nous semble important, il nous semble, disons, plutôt incontournable, nous semble incontournable le fait que nous avons, au plan éthique, une sorte de mission, c'est un grand mot, mais pour construire, pour mettre en forme d'autres attitudes, d'autres comportements, et ça, ça se fait dans le dialogue, et c'est vrai que l'Internet nous aide énormément. Bon, Skype, il y a une proximité qui se fait, il y a une communauté qui se forge internationale, en effet, oui.
Ce qui est intéressant, c'est peut-être revenir sur cette notion d'Internet, donc d'outils, et peut-être derrière, enfin, dissocier cette notion d'usage, dont l'usage artistique et l'artistique en direction d'une action citoyenne, éthique, qui permet de construire et de mettre en relation, je reviens sur cette notion de relation, des projets entre eux, quoi. Enfin, je crois que c'est la force, et peut-être aussi la question qui se pose, si on revient sur l'outil et sur ce qu'a formulé Pedro, le fait d'avoir des outils qui ne soient pas contrôlés en permanence par des gens qui en font, eux, des usages, pas forcément citoyens. Il y a une question ? Super.
Merci. Je me demandais, le Facebook, Twitter, les logiciels comme ça, ils sont assez faciles à utiliser, dans l'ensemble gratuit, avec quelques exceptions, mais pour les utiliser, il faut avoir accès à un ordinateur ou à un iPhone, et les prix sont relativement chers. Donc comment on peut apporter l'art numérique à des populations qui n'ont pas forcément accès aux ordinateurs ou à des iPhones? Est-ce que les Rarámuri pourraient, par exemple, avoir accès à cet art numérique?
C'est une excellente question. Que je me pose au quotidien, en effet. Nous travaillons aussi au Kyrgyzstan, dans des espaces où il n'y a pas non plus d'électricité. Par contre, alors smartphone, c'est dur à trouver, mais je suis surprise donc de voir le nombre en Afrique, donc en Asie centrale, en Amérique du Sud, partout, le nombre de gens qui possèdent un simple téléphone. Ça, le téléphone, c'est un outil qui me semble très 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 partagé, et justement c'est pour ça que j'ai envie de travailler. Merci pour la question, Valentin. C'est que le téléphone me semble être justement pouvoir. Alors je pense que les prix, puisque ces smartphones sont des petits ordinateurs, quoi, c'est vraiment ça condense. C'est vraiment du wearable computer, de l'ordinateur portable. Ça condense énormément de facultés entre le GPS, la faculté de parler, de se voir, etc. Donc il me semble que le téléphone, justement, c'est pourquoi je reviens 12 ans après. J'avais toujours gardé cette idée de téléphone, vers le téléphone. Il me semble que c'est justement pour pouvoir réellement ne pas avoir cette coupé par cette fracture électronique, numérique, au sens, en effet, de l'outil mis à disposition. Le téléphone me semble, pour l'instant, vu un outil fabuleux, quand même, de passage de l'un à l'autre. Et les cybercafés.
Je crois que la question est éminemment importante, parce que c'est ce qu'on appelle l'accessibilité, l'appropriation. Ce sont des choses. Alors, en France, on peut en parler parce qu'il y a eu une chose qui a été lancée il y a 10 ans. Au départ, on était sur la lutte contre la fracture numérique. Pour faire court, c'est quand même un peu une tarte à la crème parce qu'il y a une grande confusion entre l'accès à l'outil et l'accès à l'usage. Si on prend l'équivalent, la télé, tout le monde a l'usage de la télé. Mais si c'est pour rester coincé devant TF1, c'est sûr qu'on va se retrouver sur un problème de flux d'informations et de plein fouet dans cette problématique que soulevait Pedro sur la société du spectacle. Arte, par exemple, en audience, c'est 1% de l'audimat, pour resituer le problème. Et dans les espaces publics numériques, donc, qui avaient vocation de travailler sur cette lutte contre la fracture numérique, on peut déterminer qu'il y a plusieurs niveaux. C'est-à-dire qu'il y a un premier niveau... c'est ce qu'on appelle l'initiation, c'est-à-dire tout bêtement, c'est utiliser la souris, ouvrir l'ordinateur, faire un dossier, enfin, les actions basiques que ceux qui ont été animateurs dans un espace public numérique, j'en connais au moins un ici, et moi je l'ai fait moi-même, c'est un passeport internet multimédia, c'est de travailler avec des personnes du troisième âge qui doivent apprendre les basiques. Donc, un, l'initiation. L'espace public numérique fournissant ces problématiques d'accès à l'outil. Le deuxième niveau, c'est qu'une fois qu'on a fait l'initiation, il y a une sorte de formation, une sorte de parcours suivi pour essayer d'aller un petit peu plus loin dans la capacité autonome et éventuellement critique de pouvoir utiliser cet outil. C'est-à-dire qu'est-ce qu'on va utiliser comme application et ouvrir un petit peu sur le parcours. Et on s'est malheureusement arrêté, parce que même le ministère de la Culture a un peu lâché en cours, c'est qu'il y a un troisième niveau qui n'a pas été poussé et qui est éminemment important, c'est une approche de création ou de rapport à la création qui fait, et c'est là qu'on va parler d'art numérique, c'est aussi la question de à quoi sert l'art numérique si à un moment les artistes n'arrivent pas à convoquer la population. Entre parenthèses, quand on parle d'art numérique en France, ça reste quelque chose quand même d'extrêmement marginal, même si on met des temples de l'art numérique comme la Gaîté Lyrique ou très récemment à Nantes Stéréolux, on voit bien qu'il y a quand même un vrai gap entre la population au sens large et ce rapport aux questions de la création numérique. Il y a vraiment une vraie distance. Mais pourquoi, si on prend le retour, c'est que simplement, c'est le même principe que l'éducation à l'image. À l'école, on n'éduque pas. Les gamins consomment de l'image, mais on n'est pas sur une éducation dans le sens de l'apport du sens critique. Et je pense que c'est extrêmement important. Alors, dans une société qui a accès à ces outils, il faut voir que, par exemple, quand on parle des cybercafés, des espaces publics numériques, il y en a en Afrique, qui fonctionne très bien, mais qui fonctionne d'une façon totalement pas académique par rapport aux principes qu'on a, qui travaille sur des principes réels de co-construction, d'usage partagé, de choses qui ne seraient pas acceptées dans une institution, mais qui font que ça correspond à l'usage réel, et c'est aussi accepter ça dans ces espaces. Donc, d'une façon synthétique, on voit bien, c'est l'accès à l'outil et l'accès aussi à une sorte de possibilité de entre guillemets, d'éducation, appelons ça comme ça, mais une éducation qui soit plutôt ouverte et pas fermée pour permettre aux gens de pouvoir développer leur esprit critique par rapport à ça. Donc, effectivement, les cybercafés, les espaces publics numériques, tout espace, ce qu'a fait Pedro au Caire et ce que font finalement beaucoup de gens dans des espaces où le numérique n'irait pas, c'est quelque chose qui est peut-être moins arty, mais c'est quelque chose d'absolument nécessaire pour la construction de nos concitoyens, d'autant plus que si on a une vision un peu planétaire, de pouvoir échanger, et on vient toujours sur cette mise en relation.
I would also like to add that the evolution of open software, it has had lots of years to take. So since GNU and Linux, it's been more than probably 30 years, and open hardware. It has a much more short history, so I don't know, from Arduino and so on, it's not have been so many years. So we still need to wait and to develop on a lot on open hardware to have devices like a mobile phone. We can have an open and free software to work in a phone, but we still don't have open hardware to create the device itself. So most of the more interesting developments on open source projects are hardware-based projects like open or free designs to create your own 3D printer or to create your own 3D your own laser cut machine, or lots of the most interesting projects you will find are in the in research of creating new hardware to use that it's based on open source. And for example, in Laboral, there's always lots of labs involving the creation and the research on new hardware. Anyway, if the software you work with it's open, there's always the possibility to create hardware that uses it. But if you work on a non-open software base, then your software is never gonna run in an open hardware.
En gros, ça a pris déjà beaucoup de temps pour que les interfaces, les applications en open source se développent. Un peu plus lent pour ce qui est des outils hardware à fabriquer. Et de toute façon, si on n'utilise pas d'outils, d'applications en open source, si on n'utilise que des outils fermés aussi, on reste dans un monde totalement fermé sur lui-même. Donc ça va prendre, en gros, pour résumer, ça va prendre encore un peu de temps. C'est ce qu'il a dit.
Il faut des lieux comme l'importance aussi des lieux. C'est-à-dire que Horacio évoque l'idée, par exemple, de lieux comme Laboral, où on donne la possibilité, ce qu'on appelle les workshops, la rencontre. C'est-à-dire que le savoir doit s'échanger. Celui qui sait apprend à celui qui ne sait pas pour finalement accéder à une sorte d'autonomie. Mais c'est un parcours un peu plus long, un peu plus difficile, mais c'est le prix de la liberté. Voilà. On pourrait imaginer, la question se posera peut-être un moment, d'imaginer des satellites open source, c'est-à-dire d'avoir vraiment des satellites. Mais alors ça, c'est, je sais pas si... Moi, je me rappelle d'une expérience où j'avais vu... on était avec Pedro dans le sud de l'Espagne et... quand ils avaient fait l'observation de la police sur la question de l'immigration, justement, comment ça s'appelle là, un drone, un collectif estonien, non, c'était pas Estonie, ouais, Marco Pelgian, ouais, avait construit un drone simplement pour pouvoir observer en temps réel la Guardia et la police des frontières. Sur le problème de l'immigration entre le Maroc et l'Espagne. Et donc, quelque part, c'était l'arroseur arrosé, puisque le drone permettait d'envoyer l'information en temps réel et de montrer voilà, comment agissait la police. Et bon, c'est pas forcément légal, c'est pas forcément non plus illégal, puisqu'il n'y a pas de texte de loi, mais c'est peut-être aussi une certaine transparence nécessaire pour voir ce qui se passe réellement sur des zones obscures de citoyenneté. Donc par rapport à Horacio, je crois que les lieux sont importants pour accéder à cette autonomie. Est-ce qu'il y a des questions? Oui.
Alors moi, c'est donc une question qui s'adresse à vous trois, puisque vous êtes des artistes de l'art numérique. C'est vrai qu'actuellement, c'est en plein développement. Cependant, pour avoir fait quelques expositions donc destinées vraiment à l'art numérique, et je parle notamment de l'exposition Nouveau Monstre qui avait eu lieu l'année dernière à Toulouse, on y était allé avec nos profs d'histoire de l'art, et c'est vrai qu'ils n'avaient pas été très convaincus parce qu'ils trouvaient qu'il y avait plusieurs, on va dire, une certaine hiérarchie dans l'art numérique. et pensaient que ça relevait parfois un peu trop du gadget et du design, et qu'il n'y avait pas vraiment de poésie dans tout ça. C'est vrai que dans les vidéos des actions que vous avez montrées, autant lors de la session LSI que maintenant, ça a vraiment une dimension poétique et politique forte. C'est très intéressant. C'est vrai qu'il y a d'autres... pas ce que vous avez montré, mais il y a d'autres démarches qui le sont beaucoup moins. Et du coup, vous, quel intérêt y voyez-vous ? Est-ce que vous aussi, vous pensez qu'il y a une certaine hiérarchie dans tout ça ? Est-ce que... parce que du coup, les profs se posaient la question de... est-ce que l'art numérique, avec les jeunes actuellement qui s'y mettent, est-ce que ça va... comment dire, faire baisser un peu le niveau de l'art par rapport à ce qui a été fait avant.
Écoute, voilà, comment vous voyez tout ça? Je commence.
Is the question about what is art numeric in the level in
digital art, for instance, new media art, and she thinks that sometimes it's empty. There is no.
À vrai dire, je ne sais pas, mais moi, je ne me sens pas artiste numérique, par exemple. Je me sens artiste en chair et en os. Et j'utilise les outils qui sont de mon époque. Et je pense qu'un artiste, c'est de son époque, quoi. Il vit avec son époque. Donc, je ne fais pas exprès de faire appel aux outils numériques. Et ils sont là, de toute façon, il faut s'en emparer. Je sens qu'en effet, pour toutes les raisons qu'on a évoquées, il faut s'en emparer, mais en plus pour l'expressivité purement plastique, et bon là j'ai pas détaillé, mais c'est vrai que bon, l'ombre, le film, la forme, la lumière, etc., artistiquement on peut déployer énormément de choses. Moi personnellement je me définis comme artiste, point final, artiste d'aujourd'hui, personnellement. Par contre, est-ce qu'il y a des... je ne parlerai pas d'hiérarchie, mais c'est comme dans tout, tu as des pièces plus intéressantes que d'autres, où il y a juste... certaines sont juste des démos, ressemblent à des démos, je ne sais pas...
Je ne suis pas artiste, mais je travaille avec des artistes. Simplement revenir sur la prise en considération, que c'est une matière, et que là on parle du numérique. Moi j'ai tendance à dire le numérique est mort dans 10 ans, puisque le mot numérique n'aura peut-être plus de sens avec l'arrivée de du numérique quantique, enfin, on passera carrément à autre chose, mais qu'actuellement, et on en parlait, des artistes utilisent les nanotechnologies, enfin, les nanoparticules, le bioart, mais dans un acte artistique. Donc finalement, pour se référer à Méridieux son histoire du matériel et de l'immatériel, on est finalement dans un prolongement d'utilisation de matière réutilisée, peut-être avec une complexité particulière pour le numérique, et des cas particuliers comme le net art par exemple, mais que c'est une matière et que la force artistique et le mot important, la poésie projetée, a aussi un rôle à jouer. Mais il n'y a pas que ça, enfin, c'est une complexité.
In relation of this idea, first, it's natural that when a new technology arrives, it creates some kind of fascination. So people get fascinated of what this technology does, and it's nothing more.
Il peut y avoir une fascination pure et simple aussi pour certains artistes ou publics de la technologie quand elle arrive et qu'elle est nouvelle.
But what artists should do is to fight against this nonsense fascination and try to get attention of about these new technologies.
Donc il faut passer à un stade supérieur, au-delà de la fascination de l'outil, passer au sens et...
And how to use them in a creative or critique or revolutionary way.
Donc c'est la façon qu'on a de les utiliser qui compte.
For example, for us, Noturs, it's a tool. I we create it because we need it. But the best is not that we could achieve the knowledge to do it. The best for us is that we in this process we got a new tool to work with, and what we do is song works with it. So for us, the most important fun part is this end, when we have a tool and we can work with it, not the other process.
Donc là, ils ont fabriqué un outil, mais un outil pour faire du son de façon créative, un outil sonore, artistique. Et en plus, je dirais, partageable, puisqu'ils le mettent à disposition. Donc c'est vraiment...
As a final statement, I would say that photography, sculpture, painting are fading. So in art, traditional... genders have disappeared along the last years. So why do we still talk about new media art? I mean, it's art. For us, it's not, we don't consider Inés Koitara as media artist. We work with sound, and obviously to work with sound, you have to use some kind of technology, but it can be an old belt with to ring with it, or it can be a web page. It doesn't matter. It's just you get what you have around and you use it the best way you can.
Il lui semble que les disciplines, enfin les noms, sculpture, peinture, etc., ne sont non plus courts, que ce sont des paradigmes un peu passés. Et par ailleurs, il se sent pas non plus artiste d'un média défini, mais aujourd'hui, on évolue. Je pense qu'on a à un moment donné, on parlait, il y a eu des modes transdisciplinarité, multimédia, etc. Je crois que vraiment, c'est vrai qu'on peut plus s'enfermer dans une case ou une autre de définition. C'est beaucoup plus large que ça. Donc lui non plus se sent pas spécifiquement média artiste, mais se sent artiste tout court, avec une préférence peut-être pour, en ce qui le concerne, pour le son, une prédominance du son dans son travail.
Finalement, on est toujours dans cette définition artistique de l'artiste, mais avec un environnement qui ne fait que changer. Quoi. C'est une prise en compte par les artistes d'un environnement qui est là, qui est présent, qui est à portée de main, et où chacun peut aller chercher son savoir avec les outils à portée de main et l'envie de continuer à créer avec des outils traditionnels ou des matières traditionnelles comme le son, l'image et autres. Les éléments un peu nouveaux, c'est la géolocalisation, par exemple. C'est ce qu'on a vu. Ça, c'est...
Moi, je dirais qu'il y a beaucoup de techniques partout. Quoi. Et un des travaux d'artiste aussi, c'est de bosser sur la technique. Je veux dire que la peinture, c'est une technique qui a été évoluée pendant des années. C'est très technique. Ceci, il y a plein de... C'est-à-dire l'œuvre qui transporte, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'ouvriers de l'investigation artistique qui bon, ben, vont jamais... Je veux dire qu'ils vont apporter leur grain de salle, mais peut-être ils ne feront jamais la grande œuvre. Pareil en tout, quoi. Par en absolue, en l'écriture, en la sculpture, en tout. Ceci dit, je suis absolument opposé à ce que tu viens de dire, toi. Je ne pense pas du tout que la peinture est morte. Je ne pense pas du tout que la sculpture est morte. Au contraire, je pense qu'il y a une continuité de pratiques. Tout ça peut exister en parallèle. Et, c'est pas, et moi, je suis d'accord avec... Je ne sais pas si c'était toi ou ton prof qui disait ça. C'est mon prof qui disait... Je suis d'accord avec lui dans le truc. Ah ouais, moi, le peinture est mort, le son est mort. Il faut venir de multimédia là maintenant. Je suis d'accord à avoir une critique là-dessus. C'est-à-dire que je pense que tous les médiums doivent exprimer une nécessité intérieure. Et je trouve que la pièce qu'on a en bas, la pièce de Selma, c'est un très bon exemple d'une pièce qui fonctionne esthétiquement, qui est une pièce qui travaille avec la science, qui c'est émerveillant, c'est mystérieux, ça évoque une série de choses. Mais je veux dire que c'est parce qu'elle avait besoin d'explorer ça, donc elle a entré dans ces matériaux-là. Je veux dire que je suis d'accord avec le fétichisme du tech pour que si. Mais je veux dire qu'on est entouré de ça autant que des jardins. Je suis, moi, personnellement, très à faire voir des jardins. Ah, juste pour terminer un truc là aussi, juste pour terminer sur le truc de l'accessibilité,
je pense, bon, un, software libre, deux, hardware libre, trois, collectivisation. Je veux dire que dans les connexions Internet, par exemple, qu'on utilise à plusieurs, comme avec la télé aussi, le truc de la téléphone, c'est intéressant. Là, le dernier projet de Blast Theory, le dernier jeu de Blast Theory, c'est complètement en téléphonie, en utilisant Blast Theory. Et donc c'est un peu tout ça, quoi. C'est un peu tout ça. C'est un peu tout ça. L'autonomie de l'énergie, c'est impliqué. L'autonomie de pouvoir vivre, manger aussi, c'est impliqué. C'est-à-dire que c'est vraiment un repensement, repenser un peu que l'autonomie dans son global aussi, à la base du livre. Voilà. Merci.
Je voulais juste dire que dans en art numérique, il y a autant de merde qu'en art contemporain, qu'en... Enfin, ce n'est qu'un milieu. On peut aussi voir le côté marchand, le côté dispositif, où on comprend en 30 secondes et où on fait le tour en moins d'une minute. Et on passe à autre chose, on consomme. Donc l'art aussi peut être de l'art de consommation et un business. Donc il faut aller au-delà de ça et s'accaparer ces nouvelles technologies. Moi, je viens du monde sauvage, je m'intéresse beaucoup à la relation avec la nature. Et je suis extrêmement lié à la vie sauvage, mais ça ne m'empêche pas, depuis que je travaille avec Giga Circus, de découvrir ces nouvelles technologies et de m'en servir. Parce que je vais en Mongolie, par exemple, je verrai des bergers avec un téléphone portable qui sont en train de communiquer et chercher leur troupeau avec des jumelles. Donc pour eux, ça leur pose aucun problème de s'accaparer ces nouvelles technologies pour des questions de survie. Et en tant qu'artiste de notre époque, un moyen de survie, bah, c'est ces communications aussi, mais avec lesquels il faut se défendre, puisque ce sont aussi des moyens de contrôle et on est tracé avec tous ces satellites. Et donc, comment détourner ces nouvelles technologies pour la création, pour l'humain, quoi.
Question là-bas, peut-être la dernière ou l'avant-dernière, parce que...
Oui, bonsoir. Je réagis un petit peu rapidement à une question qui a été posée tout à l'heure et ça rejoint l'idée d'appropriation de logiciels libres, de matériel libre, où là je pense que c'est extrêmement important parce qu'effectivement la question était posée par rapport au fait d'amener de l'art numérique dans des peuples peut-être qui n'y ont pas accès encore. Je me demande à quel point moi j'ai envie de voir ça, c'est-à-dire à quel point j'ai envie de voir un smartphone entre les mains de quelqu'un qui n'y avait pas accès, et puis voilà, parce qu'en fait il faut savoir quand même que ce genre d'outils, si l'appropriation elle n'est pas là, si la prise en main par les artistes elle n'est pas là, et bien à ce moment là c'est la porte ouverte vers des outils et vers une société de consommation, puisqu'aujourd'hui ce qui est à l'intérieur c'est du contenu qui est extrêmement formaté, quoi. Donc, à mon sens, effectivement, l'appropriation, elle est très, très importante. Jusqu'à maintenant, on a beaucoup entendu parler de logiciels libres, et je crois que l'idée de matériel libre, aussi, elle est assez intéressante. Voilà. Donc.
Cette question soulève le problème de l'acculturation. On pourrait faire un débat là-dessus, effectivement, sur... je ne sais pas, ce que...
L'accès à une base de données mondiale de ressources, par exemple, pour les peuples qui manquent d'eau, c'est intéressant d'aller sur Internet, comprendre comment on peut construire une pompe. Et je ne vois pas en quoi ça peut changer leur culture. Et là, tous les peuples avec lesquels on vit sont tous très au courant de tout ce qui se passe sur la planète. Il y a, je pense, pas beaucoup d'humains de culture qui restent loin de la connaissance. Il y a toujours au moins une radio qui vous informe de ce qui se passe. Et je note avec plaisir quand même que les bon, il y a beaucoup de pertes de langage, beaucoup de pertes de culture, beaucoup d'acculturation, mais il y a aussi une façon très, alors on va dire raramuri ou mongole ou kirghize ou kazakh, d'envisager cette technologie, mais on ne peut pas non plus dire laissons-le dans leur folklore et nous, non, il faut que tout le monde ait accès librement à toutes ces ressources et chacun en fera quelque chose de différent et de proprement mongol ou kirghize.
Un exemple, c'est les Inuits qui ont été vraiment des premiers utilisateurs de Web TV, d'abord pour une nécessité de communication sur des territoires vastes, et deuxièmement pour un combat politique, parce qu'il y avait urgence à l'époque de la renégociation des territoires, d'être en ordre de marche, un petit peu dans l'image de ce qu'a présenté, et ça leur a plutôt réussi parce qu'ils ont réussi comme ça à être solidaires et à préserver leur territoire sur les négociations avec le gouvernement canadien. Et les Inuits ont été vraiment des précurseurs en termes de nouvelles technologies. On aurait du mal à imaginer un ordinateur dans un igloo, mais ils se sont organisés, ils ont eu les outils, ils ont fait du contenu et ils ont maintenu leur action politique. Donc voilà, enfin, je pense qu'il y a toujours ce que tu dis, effectivement, sur le problème d'acculturation est réel, mais il y a peut-être ces nécessités aussi de combat actuel et d'utiliser les outils à portée de main pour organiser une stratégie, quoi. Je sais pas, est-ce qu'il y a une dernière question? Parce que bon, bah, ce que je propose, c'est qu'on lève la séance. Je tiens à vous remercier, vous avez une belle écoute, c'est clair, et je tiens aussi à remercier Sylvie, Horacio et Pedro, qui ont, je pense, dynamisé un petit peu cette pensée autour de l'art numérique. Voilà. Voilà. Et à bientôt.